Nous sommes le 19 janvier et nous tenons aujourd'hui la première journée intensive de l'année 2025 au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le Koan 21 du Mumonkan, la mer de Séché de Maître Unmon. Le Koan se lit comme suit. Un moine demanda à Unmon, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Unmon répondit, « Une mer de séché. » Ce Koan était l'un des préférés de Taui, un maître zen du 11e siècle et l'un des grands réformateurs de la pratique des Koans. Il écrivit un jour, à l'intention de ses étudiants, le commentaire suivant au sujet de ce Koan. Un moine demanda à Unmon, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Unmon répondit, « Une mer de séché. » Portez simplement votre attention sur cet énoncé. N'attendez pas de ces mots une révélation et n'essayez pas non plus dans votre confusion d'évaluer ou d'expliquer. Prenez simplement votre esprit malheureux et confus et tournez-le vers une mer de séché. Une fois absorbé par ces mots, votre esprit cessera naturellement de fonctionner. Quand vous verrez qu'il ne fonctionne pas, n'ayez pas peur de tomber dans le vide. Dans la conduite de vos activités quotidiennes, laissez-vous toujours aller, sans plus, et faites-vous vaste et expansible. Que vous vous trouviez dans des endroits bruyants ou dans des endroits calmes, ne cessez pas de revenir au mot « une mer de séché ». Au fur et à mesure que s'écouleront les jours et les mois, votre potentiel va se purifier de lui-même et parvenir à maturité. Quand vos doutes sur une mer de séché seront pulvérisés, alors tous vos doutes seront anéantis. Le maître Taui s'opposait aussi fermement à ce que les koans soient étudiés intellectuellement. Chaque fois, disait-il, qu'un étudiant commence à analyser les koans intellectuellement, à les comparer entre eux ou à essayer de les comprendre, il passe à côté de la question et ne voit pas qu'il a pris le mauvais chemin. Certains commentateurs ont voulu, par exemple, expliquer ce Koan en disant que puisqu'il est écrit dans le Sutra Avatamsaka que la nature de Bouddha se manifeste à travers tout ce qui est, une mer de séché ne fait pas exception et elle est elle aussi une manifestation du Bouddha. La réponse de Maître Unmon serait donc tout à fait juste et conforme aux écritures bouddhistes. Leur explication s'arrête là. D'autres ont plutôt dit que Maître Unmon a répondu comme il l'a fait afin de scandaliser le moine et ainsi ébranler son esprit rempli de notions idéalisées sur le Bouddha et le bouddhisme. Il voulait pour ainsi dire ramener le moine sur terre. Ces explications sont peut-être justes, mais elles restent superficielles. Comme le dit si bien Maître Taui, elles passent à côté de la question. L'on n'y trouve que des mots vides et sans vie. Prétendre connaître la vérité en tant qu'idée philosophique est une chose. La connaître par expérience directe en est une autre. Il y a entre les deux toute la différence du monde. Sans faire l'expérience intuitive directe de s'éveiller à la vérité de sa propre nature, l'idée philosophique exprimée, aussi éloquente soit-elle, reste sans réalité. Pour le zen, cette expérience directe est essentielle. Elle seule donne vie à la vérité. Un moine demande donc au maître Ouman, qu'est-ce que le Bouddha? Cette question est l'une des questions ritualisées du Zen. Elle apparaît dans de nombreux koans et on peut la traduire par « Quelle est la vérité ultime? Quelle est ma vraie nature? » ou encore « Qui suis-je vraiment? » Lorsque l'on se questionne avec sincérité sur ce qui nous amène à la pratique, lorsque l'on se demande ce que l'on cherche, lorsque l'on s'ouvre à notre plus profonde question et que l'on découvre que pour vraiment la poser, il faudra se donner entièrement à elle, alors on est beaucoup plus proche de la question que pose le moine à Maître Ouman. L'on cesse de passer à côté de la question. On prend le bon chemin. Et devant la sincérité de notre question et de notre aspiration, Maître Ouman nous répond « Une mer de séché. » Qu'est-ce qui se passe ici? Laissez-moi vous raconter une histoire. La tradition chrétienne raconte qu'en 1263, un prêtre, Pierre de Prague, aurait fait un pèlerinage et éprouvé de grands doutes spirituels au sujet de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Au cours d'une messe célébrée par ce prêtre, lors de la consécration, l'hostie aurait pris une couleur rosée et des gouttes de sang en tombèrent sur l'autel. Le prêtre interrompit la messe pour porter à la sacristie les saintes espèces. Le pape de l'époque, Urbain IV, serait alors venu constater ce qui était survenu, et concluant qu'il s'agissait là d'un miracle, il prit la décision d'officialiser et de rendre universelle pour tous les chrétiens une nouvelle fête religieuse. On l'appela la fête Dieu. On y célébrerait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. 7 siècles plus tard, vers l'âge de 10 ou 11 ans, je suis jeune enfant de cœur à la paroisse Saint-Théophile de Laval-Ouest et je déambule à mon tour dans les rues de mon village pour y célébrer la fête de Dieu. C'est une belle soirée d'été. J'ai revêtu ma soutane rouge et mon surplis blanc des grandes occasions et je me sens à ma place, entouré par les gens de ma communauté. La procession semble s'étirer sans fin. Tout le monde y est et tout le monde s'est fait beau. L'on entend des chants religieux, des prières sont psalmodiées par la foule devant des reposoirs, qui sont des sortes d'hôtels provisoires montés tout le long du boulevard Sainte-Rose, qui est la rue principale du village. Sous un dais coloré que des porteurs tiennent au-dessus de lui, le prêtre officiant, qui a lui aussi revêtu ses plus beaux habits, porte l'ostensoir, une sorte de support en forme de soleil qui sert à exposer l'hostie consacrée à l'adoration des fidèles. Il s'arrête lui aussi à tous les reposoirs et après une courte prière, il reprend sa marche avec solennité, et nous le suivons tous. Y a-t-il ici la moindre question, le moindre doute? Peut-être pourrait-on dire que ce jour-là, alors que la procession de la fête Dieu s'étirait dans les rues de mon village, nous passions tous et toutes à côté de la question, comme le dit Taoui. Nous étions riches de nos rituels, de nos convictions et de nos croyances, riches aussi des précieux dogmes de notre Église, convaincus, mais sans y avoir jamais vraiment réfléchi, d'avoir raison. encouragés dans notre conformisme par les sourires et la présence des autres. Nous avancions les yeux grands fermés dans ce qui nous tenait lieu de vérité. Où y avait-il alors en moi la moindre place pour une question? Un jour, quelqu'un demanda à Hounmon, « Il y a en moi quelque chose qui me préoccupe plus que tout, mais je ne sais pas comment y entrer. Dites-moi, maître, comment puis-je y entrer? » Et Hounmon répondit, « Votre confusion même est la porte d'entrée. » Nos questions sont notre seule richesse sur la voie. Ne laissez jamais la moindre réponse s'interposer entre vous et votre question. Acceptez d'être sans réponse. Revenez à vos pauvres questions. Prenez soin d'elles et laissez-les vous guider. Vous n'avez besoin d'aucune réponse, d'aucune croyance, d'aucune explication. Rappelez-vous ces mots de Maître Bassoui. Voyez que tout ce qui apparaît dans votre esprit est une forme. Et cessez de calculer ou d'analyser. Toutes vos pensées sont des illusions. Tuez le Bouddha lorsqu'il apparaît dans votre esprit, et aussi les ancêtres et les gens ordinaires lorsqu'ils apparaissent dans votre esprit. Détruisez le monde lorsqu'il apparaît, et aussi le vide s'il apparaît. Ne vous attachez à rien. Le zen repose sur une aspiration profonde, qui se manifeste en nous comme une nostalgie de quelque chose, comme si l'on avait perdu ou égaré quelque chose, mais sans savoir ce que c'est. On a le sentiment que quelque chose manque, et ce, en dépit de toutes les promesses du monde. Un jour ou l'autre, il faut s'appauvrir. Les vêtements des grandes occasions que portent les jeunes enfants de cœur, et les ostensoirs dorés dont on dit qu'ils renferment une hostie où Dieu lui-même est présent, ne suffisent tout simplement plus. On les laisse derrière soi. Tout comme les sourires et la présence rassurante des autres. On commence alors à avancer seul sur un chemin que l'on ne connaît pas encore. On cesse de passer à côté de la question et on commence à la chercher avec sincérité dans sa propre vie. Notre pratique devient alors plus intime, moins tapageuse. On cesse de chercher ailleurs que dans sa propre vie. L'on peut alors se rapprocher plus intimement de la question que le moine pose à Hounmon. Qu'est-ce que le Bouddha? Quelle est la vérité ultime? Quelle est ma vraie nature? Qui suis-je vraiment? Dans les toutes premières lignes de son chant du Zazen, Maître Akuin écrit « Depuis toujours, tous les êtres sont Bouddha. Comme l'eau et la glace, sans eau, pas de glace. Hors de nous, point de Bouddha. La vérité si proche, nous la cherchons si loin. Hors de nous, point de Bouddha. La vérité si proche, nous la cherchons si loin. » Au début, l'on entend mal ces mots. On croit encore que l'on pourra saisir cette vérité dont parle Maître Akuin. Ne dit-il pas en effet qu'elle est toute proche et que notre erreur est de la chercher au loin, hors de nous? L'on commence alors à regarder en soi, dans ce que l'on appelle son monde intérieur. L'on cherche dans nos propres pensées, dans ce que l'on ressent, à l'affût de la moindre expérience d'approfondissement, cherchant à comprendre de quel côté regarder pour enfin trouver cette vérité qui nous échappe. On le fera peut-être pendant des années. Dans notre confusion, l'on se souvient parfois qu'un maître a dit « Ne vous attachez à rien ». L'on s'efforce alors de tout mettre de côté, de ne s'accrocher à rien, de tout laisser passer. Et l'on y revient sans cesse, espérant que cela donnera quelque chose et que d'une manière ou d'une autre, cela nous rapprochera de la vérité. Mais plus les années s'écoulent, moins l'on y croit. Le temps passe, et malgré tous nos efforts, l'on entre dans une sorte d'obscurité, comme lorsque la lumière baisse en fin de journée. Malgré tout ce que l'on a fait, on a toujours les mains vides. À quoi bon tout cela? Un jour, un moine rendit visite au maître Zen Matsu. Le maître lui demanda « Quelle est ton intention en venant ici ?» Le moine répondit « Je suis venu m'instruire de l'enseignement du Bouddha. Pourquoi quitter le trésor qui est dans ta propre maison pour le chercher ailleurs ?» lui dit alors Matsu. Et il continua en disant « Je n'ai rien à te donner. Quel enseignement cherches-tu donc? » Le moine s'inclina et demanda « Quel est ce trésor qui est dans ma propre maison? » Et Matsu lui dit « Toi, ici même, qui me poses cette question, voilà ton propre trésor. Il est parfait, complet, et il ne lui manque rien. Libre à toi de l'utiliser comme bon te semble. À quoi bon le chercher à l'extérieur? » Lorsque l'on entend Maître Aquin nous dire « Hors de nous, point de Bouddha », l'on croit qu'il nous parle du monde extérieur, tel que nous l'entendons habituellement, c'est-à-dire le monde dans lequel existent les automobiles, les maisons, les autres personnes, les nuages, le soleil, les galaxies et tout l'univers. C'est un monde qui est là-bas, pour ainsi dire, en dehors de nous, à l'extérieur de notre propre corps. Je suis ici et le monde est là-bas. Je le vois, je l'entends, je peux le toucher, le ressentir. Et Maître Aquin semble nous dire que dans ce monde, il n'y a aucune vérité à atteindre. L'on se tourne alors vers ce que l'on appelle notre monde intérieur. C'est le monde de nos pensées, de nos intuitions, de nos désirs et de nos peurs. Le monde de nos motivations, de nos espoirs. L'on se tourne vers ce monde croyant que l'on pourra enfin y trouver la vérité dont parle Maître Aquin. Mais tout cela est inutile. Il ne sert à rien de diviser le monde en deux. Ce sont là des complications inutiles. Il suffit de voir clairement, c'est-à-dire avec tout notre être, et non seulement intellectuellement, que les 10 000 choses du monde extérieur et les 10 000 choses du monde intérieur sont toutes perçues, vues, entendues, ressenties. Nous connaissons notre monde intérieur exactement de la même façon que nous connaissons le monde extérieur. Qui les voit? Qui les entend? Qui les ressent? Le monde intérieur, le monde extérieur, tout cela est à l'extérieur de nous. Tout cela s'écoule sans cesse, d'instant en instant, et l'on ne peut rien en retenir. Mais qui voit, entend et ressent tout cela? Qui est présent à tout ce qui est et n'en est jamais séparé? Comme l'écrit M. Lowe, toute expérience est transitoire, passagère, impermanente. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne venez pas et vous n'allez pas. Voilà la direction vers laquelle nous devons tourner notre regard. Il ne sert à rien de regarder ailleurs ou de chercher quoi que ce soit dans un monde extérieur que l'on croit séparé de nous ou dans un monde intérieur illusoire. Il ne sert à rien d'essayer de passer à côté de la question. Le moine demande à Ouman, qu'est-ce que le Bouddha? Et Ouman lui répond, une mer de séchée. Et comme nous le rappelle le maître Taoui, n'attendez pas de ces mots une révélation. Et n'essayez pas non plus dans votre confusion d'évaluer ou d'expliquer. Prenez simplement votre esprit malheureux et confus et tournez-le vers une mer de séchée. Une mer de séchée passe presque toujours inaperçue. Dès qu'on la voit, l'on détourne le regard. C'est d'une grande pauvreté, sans valeur aucune. Cela ne sert à rien. À quoi bon quitter le trésor qui est dans votre propre maison pour le chercher ailleurs? C'est la direction à suivre. Le zen n'a rien à vous donner. Aucune révélation, aucune vérité finale. La vraie connaissance de soi n'est pas une connaissance de quelque chose. Le Bouddha a les mains vides. Il n'a rien à nous offrir. Il n'y a ici aucun trésor caché. La vérité si proche, nous la cherchons si loin.